honorer nos différences.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Et oui, c'est votre émission préférée, Bang Geek Mafia, votre émission Infoculture, une fois tous les 15 jours sur les ondes de Radio G, 101.5, bien sûr. Donc, salut Romain, salut Pablo.
Salut, ça fait plaisir de vous voir.
Ouais.
Et salut aux auditrices aussi.
Salut aux auditeurs, aux auditrices. On fait un petit coucou à Sébastien.
On pense bien à lui. On l'embrasse de là où il est.
Oui, de là où il est, tout à fait. Et on fait un coucou à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. Donc, ce soir, le thème de ce soir, Pablo.
Eh bien, écoute, on va parler de dystopie et de post-apocalyptique. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu écho à une émission qu'on avait fait le 27 novembre, oui, c'est ça, de l'année dernière, du coup, 2024, où on était sur la science-fiction et on avait évoqué ces thèmes-là, en passant parmi d'autres. Mais là, on va focus un petit peu là-dessus. Voilà, dystopie. Post-apocalyptique.
Eh bien, pour commencer, je vous propose un petit morceau de musique. Petit morceau de musique avec Brain. Ça devrait vous donner une indication pour le titre. On y va.
On part du côté de l'Irlande.
Est-ce que ce serait pas des morts vivants?
Est-ce qu'on va manger des baies?
Exact.
Et ben, c'est les cranberries alors.
Avec zombies.
C'est ça, évidemment. Et c'est maintenant sur Radio G 101.5, l'émission qui fait le point. Et c'est parti. Yo. We'll bien. Ça fait du bien, mais c'est dommage d'être obligé de le couper quand même un petit peu sur la fin.
C'est clair. Revenir au basique.
Et revenir toujours. Basique. Bon. C'est pas grave.
C'est le plaisir de l'entendre.
C'est le plaisir de l'entendre. Donc voilà, bah, donc on a commencé le thème, hein, un petit peu de zombies.
Bah voilà. Oui.
Bon, on va essayer de pas se faire bouffer le cerveau, hein, c'est tout.
Non.
Ouais. Hein.
Donc, Pablo.
Alors, est-ce qu'on commence par la dystopie qu'on connaît un petit peu moins? Alors, du coup, bah oui, alors qu'est-ce que la dystopie? Alors, une dystopie, c'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité ou un contrôle total sans aucune contrainte de séparation des pouvoirs sur ses citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre ou leurs droits. En gros, une dystopie peut également être considérée, entre autres, hein, comme une utopie qui vire au cauchemar, autre version, et qui conduit donc à une contre-utopie, si vous voulez. L'auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d'une idéologie ou d'une pratique contemporaine. De fait, la différence entre une dystopie et une utopie est tient davantage à la forme littéraire et à l'intention de son auteur qu'au contenu. En effet, nombre d'utopies positives peuvent également se révéler effrayantes. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous évoque des choses, les amis?
Alors du coup, par exemple, si on suit tout ça, hein, c'est, mais corrige-moi si je me trompe, c'est pour ça que je suis un peu, tu sais, le, parfois on est
le candidat,
mais t'inquiète pas, on va être deux candidats.
Où est-ce que tu classerais 1984?
Là, du coup, clairement, c'est un classique de la dystopie.
Voilà, c'est bien.
Avec cette société de contrôle, tu parles de Big Brother, is watching you.
Exactement.
Et puis d'ailleurs là, avec cette fameuse novlangue,
ouais.
Où je sais, alors c'est quoi, c'est comment dire, soumission veut dire être libre. Enfin, tout est inversé en fait, c'est ça, dans les mots, dans la langue.
Bah oui,
c'est pas faux.
Ouais. Attention, hein, aucun rapport avec une situation gouvernementale actuelle, hein, qui serait de pure coïncidence.
Non, évidemment. Mais ça fait écho à plein d'autres choses.
Ouais.
Ça fait écho aussi au film Brasil que vous avez vu dans ce style-là. Et puis des choses qui ont de bien moindre.
De Terry Gilliam.
Oui, bien sûr. Et puis des choses qui sont de moindre qualité, hein, par rapport à ce qu'on a cité précédemment. Bien sûr, les classiques. Mm. Mais moi, ça me rappelle des films comme Time Out. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là.
Oui.
Time Out. T'as aussi comme film aussi. Moi, ça me fait penser au film Bienvenue à Gattaca.
Absolument, évidemment.
Voilà, hein, donc celui-là, il est
avec
pas mal.
De l'eugénisme.
Ah oui. Oui, tout à fait, en plus.
On sélectionne les enfants, et puis t'as les valides et les invalides, ceux qui sont nés naturellement, mais qui ont des tares, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets.
Et puis le film aussi avec Tom Cruise.
Exactement,
j'arrive plus à retrouver le titre.
Ouais, je vois.
Minority Report.
Exactement. Absolument.
Voilà, donc, de Philippe K. Dick.
Ouais. Ouais. Avec donc des sociétés qui sont extrêmement policées, qui essayent finalement d'encadrer au maximum la pensée, tout ça. Donc c'est.
Et dans le film d'ailleurs, tu parlais de société policée, on peut aller même plus loin encore, policière, puisque oui. C'est la pré-crime.
C'est la pré-crime, c'est le fait d'avoir déjà eu l'idée de commettre un crime qui condamne finalement celui qui a eu cette pensée.
C'est ça, l'intention, c'est incroyable.
Ouais, mais tu sais qu'avec les, enfin, je veux dire, sans vouloir, évidemment, avec les, aujourd'hui, on utilise aussi, entre guillemets, les nouveaux oracles, c'est l'intelligence artificielle qui peut parfois prévoir en fonction d'eux et ainsi de suite, quoi. Donc, on a ce genre de choses, ces films-là, souvent, finalement, se sont avérés, notamment Bienvenue à Gattaca, avec la sélection qui se fait génétique aujourd'hui sur plein d'aspects, finalement, ils ont été annonciateurs de ce qui allait se faire plus tard, hein, donc, ouais. Comme l'a été Black Mirror, sur plein d'aspects aussi.
Alors, la série Black Mirror.
Qui traite évidemment de ça beaucoup, quoi.
Très souvent, on a une situation dystopique dans Black Mirror. Je sais pas si vous vous rappelez de quelques épisodes.
Par exemple, la société où, tu sais, les gens sont notés et qu'il faut sans arrêt avoir.
Et c'est marrant, je pense exactement à cet épisode.
Voilà. Et justement, ce qui se passe au Japon, où c'est le cas, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir accès.
Je crois que c'est une province chinoise. Ouais.
Où tu peux ne pas avoir accès à certains services si tu es mal noté et ainsi de suite.
Ouais.
Et donc l'isolement que ça peut créer, enfin le manque par rapport à comment dire à ceux qui voilà tout le côté arbitraire que les choses peuvent être. Qui peuvent être faites à cause de ça, c'est assez effrayant. Mais finalement, cet épisode-là, comme beaucoup d'autres, a été une sorte d'oracle avant que les choses ne...
Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que il faut rappeler pour pour tout le monde en fait que dans cet épisode qui s'appelle Chute libre de Black Mirror, comment dire, on suit le père, on suit une femme qui est, je sais plus, je crois que de mémoire, elle est peut-être journaliste, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a une notation sociale, ce que tu décris.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'en fait, on note nos conversations, on note les interactions diverses qu'on a les uns avec les autres. Sauf qu'évidemment, il faut se maintenir entre 4 et 5 pour avoir accès à certains services. Sinon, après, on est dégradé. Et plus la note est dégradée, et ben, moins tu accèdes à la société, à la consommation, à des services même ultra simples. Et tout est en conséquence. Le prix de ton loyer, le prix de ton 1, 2, 3, un prêt bancaire que tu as demandé, etc. Quoi.
Bah tiens, c'est drôle que tu parles de ça parce que les banques font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en soi, au-delà même, tu sais, de la fameuse notation des pays, triple A et ainsi de suite, les banques font la même chose. C'est-à-dire qu'en soi, pour t'accorder des prêts, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait, tu es fléché, entre guillemets, t'as un dossier et t'as une note et on peut t'accorder certains prêts ou pas en fonction de la note qu'ils te mettent, quoi. Donc, par rapport à si t'as eu des, entre guillemets, des périodes où t'as été un peu en rade ou des choses comme ça dégrade ta note et ainsi de suite.
Alors, t'as été en rade, t'as plus de 70 ans, t'as eu un problème de santé, et ben, vas-y pour trouver un prêt, quoi.
Voilà. Ce genre de choses.
Par exemple.
Ce genre de choses. Ouais. Une petite question aussi en même temps, parce que là, donc, on est parti quand même sur des régimes qui sont plutôt autoritaires. Dans ces cas-là, est-ce que La Ferme des Animaux, le livre La Ferme des Animaux, c'est une dystopie ou pas?
Ah oui, il me semble, parfaitement.
Bah oui, tout à fait, c'est le même système.
Qui critique le totalitarisme, du coup, soviétique de l'époque, c'est ça,
Tout à fait.
Ouais, de George Orwell aussi, Ouais, c'est incroyable.
C'est incroyable. Alors moi, je vous propose une petite pause musicale, là, justement, là, pour essayer d'alléger un peu nos propos, quand même.
Ouais.
C'est quand même assez. Voilà. Alors, je vous propose un petit morceau de Radiohead, Paranoïde.
Android,
justement, Paranoïde, Paranoïa. Voilà.
Ça nous rend un petit peu paranoïa. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et des androïdes.
Excellent titre. Du coup, clin d'œil à Seb, évidemment, qui aime beaucoup le groupe.
Donc, voilà.
Spécial dédicace à Seb.
Donc, Radiohead sur
Radio G.
Radio G.
Vous êtes bien dans Bandit Mafia.
La radio qui fait le point, les gars.
Oui, 101.5, la radio qui fait le point. On va y arriver. C'est parti. musique, parce que autrement ça va être un petit peu long quand même. Et du coup, on va parler tout doucement.
C'est clair.
En essayant de ne pas se devenir paranoïde.
Et de ne pas devenir des androïdes.
Et de ne pas devenir des androïdes. Voilà. Donc c'était Radiohead sur
Paranoïde
sur Radio G.
Bon, bien Radiohead, t'as raison.
Oui. Vous êtes bien dans Monde Geek Mafia. On parle de dystopie. Et alors, en fait, moi, je voulais vous parler des romans d'Alain Damasio, un écrivain contemporain que j'aime beaucoup. Alors, on l'a connu, bien sûr, pour son chef-d'œuvre, La Horde du Contrevent, qui est incroyable, qui est une forme de dystopie. Hein, c'est-à-dire, les gens sont, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont placés, c'est 23 bonhommes qui marchent, enfin, bonhommes et bonnes femmes, qui marchent sur une planète contre le vent et avec différents types de vents. Et ils doivent passer de l'aval à l'amont. Ils sont partis de l'aval de la planète à l'amont, en gros, peut-être reliés un pôle à l'autre. Et ouais, c'est juste incroyable. C'est un roman ultra poétique, métaphysique, très très beau.
Et ils se prennent des vents.
Ils se prennent des vents.
Voilà, ouais, mais c'est ça.
Fort dans la gueule. Je te raconte pas. Après, par exemple, dernièrement, il a sorti. Alors, on l'a connu aussi pour la Zone du Dehors, qui est une dystopie plus classique, hein, sur une planète avec une société de contrôle. Mais moi, je voulais parler des Furtifs, celui qu'il a sorti il y a quelques années, qui sont plus récents. Où là, il imagine en fait que dans un futur proche, hein, on est aux alentours de 2040, les villes sont tellement en faillite que des grandes entreprises les rachètent. Et du coup, qui privatisent les villes. Lyon est racheté par Nestlé, Paris par LVMH, Orange évidemment par Orange. Et
Marseille.
Et voilà.
Et, bah oui.
Et donc, on va avoir des villes dans lesquelles tu as un forfait standard, premium ou privilège. Et selon ton standard, selon l'argent que tu es prêt à mettre dans ton standard, bah, tu as plus ou moins accès à une citoyenneté normale, classique ou pas. Et donc il imagine cette société de contrôle incroyable où nous sommes, on a quasiment plus de smartphones, on a des bijoux connectés.
C'est déjà le cas.
Et ça existe déjà.
Bien sûr.
Et ces bijoux connectés qui nous, évidemment, géolocalisent, qui nous envoient tout le temps des qui sont un peu une IA. Alors lui, il appelle ça, du coup, une intelligence amie. Parce que c'est une intelligence, un petit peu comme dans Her, qui vous connaît par cœur et qui vous parle,
qui s'adapte à son public, quoi.
C'est ça.
Ah, quel film, me relance pas sur Her, parce que
c'est incroyable.
C'est un de mes préférés.
C'est vrai, hein. C'est vrai.
C'est formidable.
Tu parlais de l'IA tout à l'heure, ben voilà, tu vois, ouais. On est un peu dans cette...
Et au-delà même, évidemment, de ça, il y a toute l'histoire de... Enfin bref, on s'égare, mais de l'amour aussi, de ce que c'est aimer à travers ce film-là, je trouve que c'est vraiment... Voilà,
parce que le conseil. Film parle aussi de ça.
Ah bah évidemment. Ah
oui, un conseil aux auditrices, aux auditeurs.
Ah bah oui, voyez ce film avec Joaquin Phoenix.
Qui est... Et la voix de...
Scarlett Johansson, bien entendu. Non, vraiment, c'est formidable.
Incroyable. Ouais, voilà, donc en fait... alors évidemment, ce qui est intéressant chez Damasio, c'est qu'il va aussi chercher quand même un contrepoint, il va essayer de trouver une possibilité de s'en sortir de cette dystopie, et c'est dans le vivant qu'il va le chercher, puisque effectivement on découvre des êtres qui sont des furtifs, qui ont toujours accompagné l'humanité, mais toujours dans les angles morts de notre perception, toujours cachés et qu'on n'a jamais perçus, et pourtant qui sont là. Et donc il faut juste s'en furtiver pour apprendre à les connaître et trouver une autre voie. Enfin bref, je vous invite à lire ce roman qui est vraiment incroyable.
Mais bah, tu sais, hein, d'une certaine manière, de manière indirecte, il y a déjà une forme de colonisation de certains pays par des entreprises étrangères.
Ouais.
Et on évoquait en off aussi au Chili les gamins qui faisaient des manifestations parce qu'ils étaient obligés de s'endetter sur des années parce que les facs privées faisaient que t'étais obligé de faire des prêts gigantesques pour pouvoir étudier 5 ans et rembourser pendant 30 ans. Et il y a eu toutes ces manifs qui ont changé en partie le paysage. Enfin, politique déjà, et puis la société chilienne grâce à ces jeunes-là. Donc oui, ce truc des villes qui sont entre guillemets rachetées par des entreprises ou des marques, bah, indirectement, ça existe déjà, quoi.
Ouais, clairement.
Et le monde connecté, on est déjà extrêmement fliqué, ne serait-ce que par nos smartphones, par les montres connectées aussi en même temps.
Mais oui.
Et voilà, quoi. Donc, on est déjà dans cet univers.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait,
le lanceur d'alerte qui expliquait que les téléphones Apple, voilà. On pensait que c'était sécurisé, mais ils passent des journées complètes à entendre les utilisateurs, c'est fou, quoi.
Tout à fait. Et donc, on a
eu des conversations intéressantes.
On a là, ouais. On a quand même l'impression qu'en fait, ouais, c'est ça, ces auteurs de science-fiction ne font que pousser très légèrement le curseur un petit peu plus loin, mais qu'en fait, tout est déjà là. Tout est déjà là, en fait, quoi. Quasiment, hein. Voilà. Et c'est assez flippant, quand même. Alors, une dernière chose que je voulais vous signaler, c'est la série. Enfin, d'abord, c'est un roman, La Servante Écarlate, The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, et puis qui a été porté en série avec Elizabeth Moss que j'aime beaucoup. Et vraiment, bon, alors c'est une série qui est, en gros, il y a une guerre civile aux États-Unis, une faction religieuse protestante puritaine a pris le pouvoir, parce que figurez-vous que la planète est de plus en plus, enfin la pollution qu'on a engendrée sur cette planète nous a rendu les humains stériles, et donc il y a, en gros, on est dans une crise très puissante de la natalité, sauf quelques femmes qui continuent à être fertiles, et celles-là vont être réduites en esclavage pour être des mères pondeuses, en gros. Et donc, c'est l'histoire, justement, de ces servantes écarlates qui sont des esclaves sexuelles. Et alors, c'est l'histoire, c'est quand même très violent. Les deux premières saisons sont, on est quand même on étouffe de cette violence, de cette oppression, de ce contrôle qui est fait sur elles. On vit un peu au rythme de leur journée. Et jusqu'à un moment quand même où il faut préciser quand même, il faut tenir quand même deux saisons pour un moment entrevoir la lumière et puis une résistance qui va s'installer. Et là, les choses qui vont commencer à basculer d'un autre côté, donc de façon plus positive. Mais voilà une série qui est, je pense, qui mérite d'être vue. Il y a 6 saisons par contre.
Eh ben merci. Juste un petit détail, tu m'as fait penser. Alors moins qu'une dystopie, c'est un peu une série un tout petit peu conspirationniste, mais pas dans le mauvais sens du terme. Attention. Pas en écho à des tas de choses qu'on n'aime pas. Non. Je vous conseille si vous la connaissez pas, une série qui était, c'est 2013, elle a déjà 10 ans et qui est assez peu connue et qui gagne vraiment être connue. C'est une série anglaise qui s'appelle Utopia. C'est formidable et vous pouvez la trouver sur. Bah, elle était sur HBO à l'époque et maintenant elle peut se retrouver sur Prime Video. C'était une série très violente. Alors c'est violent physiquement, c'est violent surtout psychologiquement, mais c'est extrêmement bien pensé. C'est une des dernières qui vraiment m'a plu et qui a réussi à me surprendre. Utopia, série anglaise, je vous suggère vraiment de la regarder.
Tu peux la pitcher en deux mots ou qu'est-ce qu'elle
Oui, alors mes souvenirs sont un peu vagues, mais je peux te lire un pitch. Moi, les souvenirs que j'ai évidemment, c'est des gens qui se connaissent, qui ne se connaissent pas et qui partagent un attrait pour des bandes dessinées. Au départ, c'est comme ça. Ils se parlent sur un forum et en fait, la bande dessinée, il va s'avérer qu'en fait, les choses qui sont racontées dedans, c'est comme des clés et il y a toute une gestion finalement derrière tout ça. Ils le découvrent et du coup, ça les met en danger, tout simplement. Alors le pitch, c'est une série. Je peux vous le faire vite fait. Becky, Ian, Grant, Wilson et Bejan sont membres d'un forum de discussion regroupant des personnes en possession d'une bande dessinée. Bon, c'est ce que je vous disais. J'avais bon. Intitulé Utopia partie 1, quand Bejan annonce qu'il possède la partie 2, jamais publiée. Ils décident de se rencontrer pour le voir ensemble, mais Bejan est tué avant leur rendez-vous et la vie des survivants bascule. Ils sont alors pourchassés par une organisation secrète, le réseau, qui semble prête à tout pour remettre la main sur la seconde partie. Celle-ci renfermerait non pas de la science-fiction écrite par un fou, mais des secrets bien véritables. Ils devront alors fuir pour survivre.
Waouh.
Non, franchement, je vous la vraiment très bonne série.
Ça a l'air très bien, tu vois.
Ouais.
Ça a l'air donné envie là.
Bah, je vous propose une petite pause musicale.
Allez, une petite respiration.
Alors, qu'est-ce qu'il y a du temps dans ton panier?
Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Là, c'est une proposition de Seb. Là, il nous a proposé un petit groupe qu'il a découvert. Alt 236. On va écouter. Okay. Et là, en cherchant un petit peu un morceau, là, j'ai trouvé un morceau qui correspondait un petit peu à notre thème. C'est The Lost Spaceship. Donc voilà. Donc je vous propose d'écouter ça maintenant.
Très bien. Dans Geek Mafia.
Dans Bon Geek Mafia sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti. J'étais un peu rapide sur le potard. Bon, alors Romain, il comprenait pas trop le lien avec notre émission sur le morceau que nous venons d'écouter The Lost Spaceships de Alt 236. Eh bien oui, effectivement, on est perdu dans un univers quand même un petit peu étrange. Et donc ça va nous permettre de faire notre jonction au final aussi, puisque comme le morceau de musique parle d'un vaisseau spatial perdu dans l'espace infini, comme qui dirait. Mmh. Eh bien, on peut peut-être raccorder ça aussi en même temps au film Alien. Alors là, vous allez me dire Alien, quel est le rapport? Pas dystopie, mais là plutôt post-apocalyptique.
Oui.
Et oui, dans le sens où effectivement, si on regarde bien le film, le film Alien 1, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, il y a eu un apocalypse, il y a eu un événement dramatique au point de départ. Mmh. Alors, je sais, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, on y arrive.
C'est capillotracté, mais on arrive.
On y arrive. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'une mission est envoyée pour aller au secours d'une base de colons dont on n'a plus aucun.
C'est dans le 2.
Et dans le 1 aussi, en même temps.
Ouais, c'est vrai. Enfin, ils arrivent sur une lune.
Ça s'espace, dans le 2 aussi. On finit par s'y perdre. De toute façon, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on finit. Quoi qu'il en soit, ils rencontrent une petite bébête très très sympa. Et là, c'est l'apocalypse. Hein. C'est la boucherie. Hein.
Tout le monde.
On se rappelle de cette petite scène. Avec Sigourney.
Ah, c'est vrai. Ouais.
Alors, on va parler du post-apocalyptique. Alors, je en parle un tout petit peu, hein, parce que
qu'est-ce que le
post-apocalyptique? Alors, c'est effectivement la science-fiction post-apocalyptique est un sous-genre. Effectivement, c'est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie après une catastrophe ayant détruit la civilisation. Guerre nucléaire, collision avec une météorite, épidémie, crise économique. Ou crise de l'énergie, pandémie, invasion extraterrestre, etc., etc. Et c'est vrai que on y est un petit peu. Hein. Ouais. Parfois utilisé simplement pour ses aspects ultra-violents, le post-apocalyptique repose sur un délicat équilibre entre une civilisation perdue et un chaos naissant. Il met en scène une confrontation de la réalité sociale négociable, relative, corrompue, de servitude et de dépassement d'échelle d'un seul homme. À la dure réalité physique. Cette fois, c'est à la fois la fin du monde et un nouveau départ. Un nouveau départ qui nous amène vers des contradictions riches qui permettent de développer un concours, souvent un discours original sur le monde réel. Enfin, on peut dire que le post-apocalyptique se distingue des fictions de catastrophe, films catastrophe en fait, qui mettent en scène la catastrophe en elle-même. Donc là, c'est on vient après. Mais on pourrait dire qu'il y a aussi du pré-apocalyptique. C'est-à-dire qu'en général, tu anticipes sur la catastrophe à venir sans qu'elle soit encore tout à fait là. Ouais, voilà. Voilà les gars, ça vous inspire. Alors, ça vous inspirait Alien. Est-ce que vous... nous, on a connu Terminator.
Aussi, bien sûr.
Mad Max.
Bien sûr.
Ça vous dit quelque
chose? C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, sur ce thème-là, ce que ça évoque, pour moi, évidemment, le post-apocalyptique, en général, ce sont des films où il y a un peu un retour à l'instinct un peu primaire, tu sais, de vraiment, on va dire, l'homme moderne qui est un peu déconnecté de son instinct, entre guillemets, parce qu'il est, il est habitué à une forme de confort, et là, d'un coup, hop, il est rebaigné dans l'idée de se battre pour ne pas mourir. Il y a ce côté toujours un peu violent. Et c'est sympa parfois, on va pas se mentir, mais moi j'ai envie de vous parler de deux petites choses, si vous voulez bien. Un angle un peu différent sur deux séries qui exploitent le post-apocalyptique et d'une manière marrante, et voilà pourquoi je vais en parler. Alors, il y a une série qui va être très facile à trouver et l'autre un peu moins. Je vais commencer par celle qui est facile à trouver, hein, tant qu'à faire, puisqu'elle est récente et elle part d'un petit jeu vidéo que certains connaissent, hein, qu'un jeu qui a PC, console, sur les petits téléphones aussi, ça marche bien. Si je vous parle de Fallout Shelter, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Fallout, oui, le jeu, oui, voilà, oui, effectivement.
Le jeu dont ils ont fait, il y a un an et quelques maintenant, peut-être même deux ans, une série sur Prime Video.
D'accord. Et il y a en plus plein de goodies qui permettent finalement aux gens de se mettre dans dans la peau de cette série, de ce jeu vidéo, et c'est assez bien fait quand même.
Ben c'est très bien fait, le scénar est bien pensé, et puis surtout il y a de l'humour dans l'univers Fallout, et c'est ce qui me plaît. Donc voilà pourquoi je vous conseille la série, qui est peut-être moins basée sur l'humour que parfois souvent des petits jeux, notamment les petits jeux mobiles, hein, j'ai pas d'action chez eux, mais je vous avoue qu'ils sont assez sympas. Ça traite du sujet, mécanique simple, il faut sortir de l'espèce de bunker, tu construis ta petite société, et voilà, chacun a son rôle, patati, mais il faut que tu te défendes aussi. Bref, vous connaissez ces mécaniques-là, mais toujours avec une patte d'humour, des dialogues bien sentis, c'est assez sympa. Bon, ça, c'était une chose.
En Fallout, Shelter.
Ouais. Et Fallout, ce que j'aime bien dans les goodies, c'est très dans l'esprit années 50-60.
Complètement américaine.
American way of life. Et là, on se retrouve avec des trucs assez surprenants. Par exemple, des boissons typiquement américaines.
C'est Nuka Coke.
Ouais, qui sont complètement modifiées, qui ont la forme de fusée.
Tout à fait.
Des céréales qui ont la forme de bombe.
Absolument.
Voilà, c'est carrément génial. Hein,
oui, c'est très bien pensé. Il y a beaucoup d'humour. Et c'est ce qui me plaît dans c'est pour ça que je voulais vous en parler. Si vous connaissez pas l'univers de Fallout, je vous conseille les petits jeux, la série, et voilà, c'est un univers assez sympa. Effectivement, ce qui fait sa particularité, c'est ce côté un peu esthétique, un peu vintage des États-Unis de ces années-là. Évidemment, c'est le mash-up avec une société qui est dans la modernité et qui vit un crash quel qu'il soit, et qui va reprendre avec faire ce mélange là entre tradition et modernité.
Tout à fait, c'est assez.
Mais il y a autre chose. Une série qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment une de mes préférées. Mais vraiment, vraiment. Je le dis deux fois. Mmh. Alors, en l'occurrence, cette série, c'est The Last Man on Earth. Et c'est une série avec Will Forte. Alors, il existe un film, donc le titre va vous parler. Mais là, c'est la série qui est passée, qui a connu quelques saisons. Au départ, elle n'était pas destinée à faire plusieurs saisons, me semble-t-il, si j'ai bien suivi. Et sans divulgâcher, elle finit un peu brutalement parce que évidemment je vais pas donner la fin, mais ils sont retrouvés, ça c'était le cas des séries avant, tout ce qui était crise aux États-Unis là, de où des fois t'avais une série, tu savais pas si t'allais avoir le budget pour refaire une saison de plus, et finalement hop, ça repart sur une saison. Donc les créateurs, au départ, ils avaient pas prévu de mettre tout ça, et à la fin on te dit bah non, en fait il y a plus de budget, donc il faut terminer, quoi, alors que finalement t'étais reparti sur quelque chose. Et du coup ça finit, je pense, plus brutalement. C'est un peu décevant par rapport à ça, mais la série est exceptionnelle. Surtout, je vous suggère vraiment de vous laisser tenter par les, allez, vous faites deux épisodes si vous arrivez à la trouver, parce que c'est pas si simple. Et le pitch, c'est quoi? Eh ben c'est les États-Unis, c'est à Tucson, donc la série est hilarante, hein. C'est très très drôle, il y a pas, enfin vraiment c'est que basé sur l'humour, et tu vois un mec hirsute qui vit, qui pense qu'il est le dernier homme sur la terre, quoi, comme le nom de la série l'indique, et qui passe par tous les lieux, on va dire, un peu iconiques des États-Unis. Je vais pas tout dévoiler, mais il passe dans des endroits où il récupère des objets qui sont de la pop culture ou des choses comme ça, mais parce que il y a plus que lui, quoi. Il pense qu'il est vraiment seul au monde, et il y a aussi le côté presque métaphysique de l'altérité. C'est assez intéressant par rapport à ça, de comment on gérerait finalement de pas avoir d'alter ego pour ne pas sombrer dans la folie. Et il y a cette
envie. Une Robinsonade un petit peu.
Complètement, ouais. Tout à fait, c'est tout à fait l'idée. Et sauf qu'à la fin du premier épisode, et là je vous dis, vu qu'il gâche rien, il va se rendre compte, alors qu'il veut se suicider, il arrive au bout du truc, quoi. Il se dit, j'en ai marre d'être seul, je deviens un peu fou, et donc il veut se suicider. Et qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, vous le verrez en regardant.
Non, je peux le dire, c'est dans
non,
le pitch.
Ne dis pas.
Il rencontre quelqu'un.
Il voit qu'il n'est pas le seul, il voit une personne. Et ça commence comme ça, la série, et c'est hilarant, je vous assure. Franchement, moi, ça m'a refait, c'est une de mes séries préférées. Très drôle, The Last Man on Earth.
Ah, The Last Man on Earth, écoute, tu nous as vraiment alléché là, c'est cool. Ouais.
Alors, c'est pareil, le domaine post-apocalyptique, on peut le retrouver en bande dessinée, mais surtout en manga, parce que nos amis japonais aiment beaucoup là, ce domaine. Alors, je vais vous dire un titre déjà, je pense que ça va vous, pour certains, ça va vous remuer les méninges, ça va vous rappeler des souvenirs. Un manga donc post-apocalyptique, Ken le survivant.
Bien ah bah sûr. Évidemment.
Voilà, hein, au couteau de cuisine, tout ce qu'on veut. Bah, c'est...
Sa passion pour faire des trous dans les punks avec son doigt.
Qui explose comme ça, c'est génial. Alors ça, c'est, on va dire...
Ultra-violent.
C'est ultra-violent à souhait. Quoi. Ouais. Bref, c'est... en plus avec un doublage parce qu'on avait des doubleurs français
qui faisaient des voix
qui essayaient un petit peu d'atténuer la violence des textes en japonais,
mais ils partaient en roue libre sur les trains.
Non, de toute façon ils faisaient autrement. Un autre manga aussi qui est connu, alors c'est un manga, un animé là cette fois-ci du grand Miyazaki, c'est Nausicaa et la vallée du vent.
Oh, ouais. Magnifique,
voilà. Donc là c'est poétique, on est parti
hyper poétique.
Très très poétique. Mmh. Et puis deux autres qui sont peut-être qui sont connus aussi en même temps, Akira.
Ouais.
Akira, donc là voilà un manga aussi post-apocalyptique digne de ce nom. Un autre un peu moins connu, hein, je vais pas vous faire toute la liste.
Justement, c'est pour que les auditeurs puissent découvrir.
Voilà, vous avez Apple Seed aussi en même temps.
Je connais pas.
Alors celui-là, il est un peu moins connu parce qu'il est pas sorti vraiment tellement en France.
Bah, à découvrir justement.
À découvrir, il est plus sorti dans le magazine comique Gaïa, prépublié entre 85 et 89 à peu près, et qui a compilé un total de 4 volumes. Donc 4 volumes, c'est assez court pour un manga, finalement. Si je vous donne le synopsis, c'est la Troisième Guerre mondiale, 2099-2126, a ravagé une partie de la Terre. Bien que l'arme nucléaire n'a pas été employée, les nations se reforment, tandis que des groupes éparses d'humains survivent dans des villes en ruines. L'histoire commence en 2127, Dunan Knut et Brereros Bri sont deux ex-commandants de Los Angeles SWAT et qui ont décidé de s'installer dans une ville dévastée, etc., etc., des années auparavant. Et bon, je vais pas tout vous lire tout.
Non, mais on a l'univers.
On a l'univers. Donc là, vous voyez. Et puis un tout petit dernier que j'aime bien aussi, c'est Gum. Gum. Donc Rêve d'une arme, c'est une série donc manga de Yukiso Kurosaki, compilée en 9 volumes, et le synopsis est le suivant, c'est l'histoire, c'est une dystopie, là en plus là on part sur une dystopie, tu vois, basée sur une catastrophe naturelle due à la collision d'une météorite avec la Terre, amenant l'humanité au bord de l'extinction. Le monde se divise alors entre Zalem, une ville suspendue réservée à une élite, et Kuzutsetsu, excusez-moi pour mon japonais, la terre qui lui sert de décharge, où l'humanité survit dans la violence. Cette histoire raconte la renaissance d'une cyborg amnésique nommée Gali, qui va chercher un sens à sa vie.
Waouh, voilà. Sympa. Ouais, alors moi ça me fait penser aussi à La Route. Parce que là tu parlais de BD, alors oui. Je reviens sur la dernière qui est sortie de Manu Larsenet, qui en fait qui porte en dessin, en graphisme, l'univers très sombre du roman de Cormac McCarthy, La Route, qui a été aussi porté à l'écran, hein, par John Hillcoat en 2009, hein, avec Viggo Mortensen, ouais, dans le rôle principal. Vraiment, La Route, c'est ultra sombre parce qu'effectivement il y a eu une catastrophe. Sans doute apocalyptique de type nucléaire. En fait, le monde est en train de mourir. Et là vraiment, c'est no future. Il n'y a plus d'espoir. Il y a juste à essayer de survivre. Et évidemment, les humains sont redevenus barbares, ultra violents. Et il y a un père et un fils qui marchent sur la route, qui traversent les États-Unis. L'idée, c'est de rejoindre le Sud parce que il a l'espoir de pouvoir sauver son fils et de l'emmener dans une communauté qui a gardé des valeurs humaines. Mais rester sur la route avec des hordes de barbares, les dangers, voilà, et c'est tout leur périple. Le roman est d'une beauté incroyable, avec le style de Cormac McCarthy est splendide, vraiment splendide. Il y a presque des phrases iconiques de type biblique, c'est incroyable. Et après, voilà, c'est particulièrement sombre. Et c'est vrai que la BD, juste pour revenir sur l'univers du graphisme, Larsenet l'a rendu avec il fait des nuances de noir, de sombre, c'est incroyable, hein. Il fait du noir une couleur un peu, enfin voilà, c'est très très beau.
Non, oh, mais tu nous as donné envie, effectivement.
Ouais, clairement.
On s'écoute un petit morceau de musique.
Alors,
un petit titre sympathique. Donc, bon, je pense que vous allez connaître Marilyn Manson.
On aime beaucoup. On est assez friands.
Alors, c'est Don't Chase the Dead plutôt, pas The Death.
Ouais, The Dead.
The Dead.
Don't Chase the Dead.
Dans Bangeek Mafia.
Sur Radio G, 101.5,
la radio qui fait le point. Et c'est parti. Et voilà, c'était Marilyn Manson, Don't Chase the Dead, dans Bang Geek Mafia, votre émission Info Culture, une fois tous les 15 jours, sur Radio G 101.5.
Et on parle de post-apocalyptique.
Oui,
Alors, ce morceau me faisait penser à la série BD et série TV, The Walking Dead.
Ah ouais. Eh oui.
Vous la connaissez, vous avez
Oui.
11 saisons, en BD, je sais plus.
Un peu trop de saisons, sans doute.
Un peu trop de saisons.
Oui, disons qu'ils ont pas su s'arrêter.
Sans compter les spin-offs, parce que du coup, c'est carrément une franchise, quoi.
Là, on va. Moi, je vais me fâcher là-dessus.
C'est vrai. Mais moi, j'avoue que je me laisse toujours prendre et j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a certaines saisons où tu dis bon, ils relancent, mais ils ont trouvé quand même des personnages à chaque fois assez incroyables qui relancent la machine et puis t'aimes les suivre et tout. Mais voilà.
Ouais. D'un moment, là, sur les dernières saisons, moi, je vais mettre un bémol parce que c'est vrai que j'ai été quand même extrêmement fan de cette série. Pareil de la bande dessinée.
Jusqu'à Negan.
Et puis après Negan, c'est parti trop dans la parlotte. À un moment, j'ai envie de dire, bon, on va arrêter parce que là, on voudrait peut-être savoir le pourquoi du comment.
C'est ça. On le sait toujours pas.
C'est ça le problème. Ouais. Et puis, surtout, le problème aussi, c'est que dans un premier temps, la bande dessinée était quand même relativement, disons que la série était relativement fidèle à la bande dessinée, mais comme ils ont été plus rapides que la bande dessinée,
prend trop de liberté, ça s'éloigne.
Ça s'est complètement éloigné, et du coup, la bande dessinée n'a pas suivi non plus, quoi. Et donc là, c'est
il y a deux mondes.
Et puis après, il y a eu aussi différentes parce qu'il y a eu The Walking Dead Côte Ouest aussi en même temps.
Ah, ils ont fait un mashup avec le Côte Ouest des années 80.
Là, il va falloir arrêter. Et puis après, on a eu les spin-offs.
Les spin-offs.
Je fais stop là. Faut arrêter.
Il y a eu l'épisode iconique de la biche mal modélisé ou je sais pas quoi là où tu vois de. Ça, c'est un truc qui est apparemment.
Bien.
Ils avaient fait une biche très mal faite en 3D. Ça fait partie. Il y a eu des trucs, des couacs comme ça qui restent.
Non, ça fait surtout partie des trucs, des problèmes où on a des séries qui sont bien au départ. L'idée est bonne. Mais à un moment ou un autre, j'ai envie de dire, il faut savoir s'arrêter.
On parlait tout à l'heure des enjeux financiers. C'est-à-dire que, tu vois, la série dont je te parlais tout à l'heure, qui était vraiment très très bien, elle aurait pu avoir des épisodes en moins, des saisons en moins. Mais c'était à une époque, et aujourd'hui, je pense qu'ils font, c'est moins le cas, me semble-t-il. Tu avais une série qui était partie au départ sur une saison, et gros succès. Et les gars, on vous met un gros budget, faut faire une saison 2. Ah merde! Et puis, en fait, des fois, ça va encore, et après, ils partent sur des scénarios pour des fois plusieurs saisons, puis au bout d'un moment, on leur dit, en fait, il n'y a plus le budget. Et bim, ça s'arrête comme ça, ou alors, ça perdure, jusqu'à tirer sur la ficelle au maximum.
Du coup, on t'a coupé dans ton envolée, quand même.
Non, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Non, mais moi, c'est vrai que c'est quand même, je reste quand même assez, assez fidèle, mais je suis d'accord avec toi sur à peu près tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, ils tirent trop sur la corde, et c'est vrai que t'aimerais bien un peu plus en finesse. Voilà, tout à fait. Et qu'on arrive à une conclusion. En tout cas, là, j'avais une question quand même pour vous, les gars.
Ouais.
C'est pourquoi imaginer l'après-catastrophe? Pourquoi nous intéressons-nous au post-apocalyptique, à la dystopie, à ce genre de choses qui sont quand même relativement sombres?
Je pense que ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure.
Vas-y,
c'est-à-dire, on a l'impression parfois on arrive au sein d'une société dont les règles sont déjà établies, qu'on suit des codes, que tout est déjà un peu balisé en quelque sorte, et qu'on est on n'est pas forcément acteur, on est assez passif de la vie qu'on mène en quelque sorte. Et parfois l'idée d'un gros crash comme ça, avec un retour à l'état, on va dire primaire et ainsi de suite, ça donne le sentiment un peu du vivant de se retrouver entre guillemets soi-même et pas aussi conditionné.
Genre revenir un peu à l'essentiel.
C'est souvent ça en fait. Ouais. Alors je dis pas qu'on est que passif et qu'on est voilà, mais quelque part parfois on peut avoir ce sentiment-là et projeter sur un personnage de série, sur un personnage de roman ses aspirations, en tout cas l'envie qu'on pourrait avoir des fois de changer de vie comme certains savent le faire aussi, ou de bousculer les codes et puis de plus être dans ces rails-là qu'on suit finalement tout le long. On peut fantasmer ça à travers ce genre de thématique, quoi, tout simplement.
Ouais, tout à fait.
Un exutoire, en quelque
sorte.
Ouais,
comme un exutoire.
Ouais.
Tout à fait. Toi, Seb, t'avais une idée, parce que
moi, je pense que c'est plus l'idée. L'homme aime bien aime bien bien savoir ce qui va se passer dans l'avenir aussi en même temps. Mmh. Et comme il n'a pas toujours toutes les clés aussi en même temps pour essayer de comprendre déjà le monde dans lequel il vit, il a un petit peu de mal. Donc il imagine le pire peut-être pour essayer de voir le meilleur, on va dire.
C'est vrai. Ouais. Mais est-ce que justement l'historien que tu es ne se dit pas au fond, on imagine l'avenir, on essaie de l'anticiper à l'aune de catastrophes qui ont déjà eu lieu. Je pense par exemple à la Shoah, la catastrophe nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Enfin, je veux dire des choses qui pourraient rappeler une forme d'apocalypse en fait.
Mais je répondrai par la formule de Winston Churchill, hein, de toute façon.
C'est toujours sympa de répondre avec
Churchill, mais bon, même si c'est pas forcément lui qui l'a sorti, puisqu'elle a été quand même reprise, c'est quand même lui, une société qui ne connaît pas, qui oublie son passé et condamnée à la revivre aussi en même temps.
C'est donc, ça. C'est ça. Alors moi, j'avais quand même aussi l'hypothèse que, souvent, c'est aussi un, qui va assez dans le sens de ce que tu disais aussi, Romain, c'est que c'est un rappel de ce qui est essentiel dans notre civilisation. Un rappel que, par exemple, que l'humain est peut-être plus important, la culture, la terre, la nature, là où parfois on se perd dans des gadgets, dans des technologies, dans la violence, dans les armes. Voilà. Peut-être une autre hypothèse, si vous me permettez.
Bien sûr.
Le fait aussi, peut-être, au fond, qu'est-ce que révèlent les dystopies ? Révèle souvent la vraie nature de l'humain. Et c'est là qu'on peut se demander, sommes-nous des... Si par exemple, si on nous enlevait, c'est une vieille hypothèse philosophique hein, qui s'appelle l'état de nature, si on nous enlève le cadre de la civilisation, c'est-à-dire le cadre moral et juridique, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'on a encore des valeurs ? Est-ce qu'on devient égoïste et violent ? Ou est-ce qu'on devient... On est capable d'altruisme et de solidarité encore. Et souvent, ces enjeux-là qui sont explorés dans le post-apo.
Alors moi, je vous propose, là maintenant, vous avez 15 jours pour faire ça. Hein. On ça. Récupère les copies dans 15 jours à peu près, parce que là, il va falloir...
J'en ai marre des copies, moi.
Il va falloir...
Tu vas dire qu'on arrive à bientôt
à
l'heure.
On arrive à la fin de l'émission.
Ah, c'est ça.
Et je vous propose,
comme quand,
là, j'avais commencé... Oui, encore plein de choses à dire, comme à chaque fois. Donc, j'avais commencé à vous mettre un petit morceau de Joy Division, Transmission. Et donc, je vous propose de l'écouter pendant les quelques minutes qui restent avant de laisser la place à nos amis de Read Is Back.
Mais ouais.
Tu fais très bien, c'est super de t'avoir
parvenu. Et on dit au revoir aux auditrices.
On dit au revoir
et
aux
auditrices. On embrasse Seb encore une fois.
Ouais, ciao,
et
ciao.
À dans 15 jours.
À bientôt.
Bisous.